Nutri Science.
Bonjour Nicolas, et l'on consacre le premier dossier de ce journal à l'Institut Gyptis qui devait devenir le plus grand centre européen dédié à la recherche sur les maladies génétiques rares et à l'accueil des malades, qui devait voir le jour en 2020 sur le campus de la Timone à Marseille, construit peu ou prou sur les modèles de l'Institut Gustave Roussy pour le cancer ou sur l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, c'est-à-dire un modèle public-privé. Ce projet était censé permettre de concentrer les forces vives de la recherche et de l'industrie pharmaceutique pour avancer sur ces maladies génétique rare, soutenu par des dizaines d'institutions, financé à hauteur de 73 millions d'euros, le projet Gyptis pourrait être menacé. Il devait s'installer en effet sur le campus de l'hôpital de la Timone à Marseille, mais l'APHM, c'est-à-dire les hôpitaux de Marseille, dans un revirement étonnant, est revenu sur l'accord fondateur passé avec l'Institut, comme l'explique Nicolas Lévy qui est à la tête du projet.
Très clairement, on a parlé d'un projet menacé parce que l'assistance publique, après plus de 2 ans ou quasiment 2 ans de travail avec un projet qui est bouclé aujourd'hui sur le plan économique, sur le plan architectural, sur le plan fonctionnel, sur le plan organisationnel, etc., et sur le plan scientifique, l'assistance publique, à un moment donné, est revenue effectivement sur un engagement, l'engagement d'octroi d'une parcelle. Alors cet engagement, il était ferme, il était définitif, c'est ce qui a été la base de la construction de Gyptis. On a fait travailler des architectes, des cabinets de maîtrise d'œuvre, cabinet de Deloitte en particulier, est intervenu pour construire avec nous le modèle économique. Puis nous sommes dans un calendrier, effectivement, qui est relativement contraint, calendrier qui nous est imposé, malgré tout, par un certain nombre de financeurs, dont la Banque Européenne d'Investissement, qui doit nous permettre d'obtenir une somme d'argent substantielle, mais à condition de commencer à instruire le projet aux alentours du mois de mars ou du mois d'avril au plus tard. Donc on ne peut pas aujourd'hui envisager de changement de parcelle sans perdre à la fois tout le travail qui a été réalisé et sans perdre, évidemment, une somme d'argent, là aussi, substantielle. Et je dois quand même à l'honnêteté de dire que depuis quelques jours, les choses se remettent plutôt en positif, ou en tout cas, le dialogue s'est réouvert. On envisage toutes les possibilités dans un calendrier commun pour libérer cette parcelle le plus rapidement possible.
Le professeur Nicolas Lévy, généticien, donc à la tête de Gyptis, qui on l'a entendu, se dit optimiste parce qu'après plusieurs semaines de blocage, il semblerait que les négociations reprennent en ce moment entre l'Institut Gyptis et l'APHM. L'APHM qui avait argué de difficultés pratiques. La parcelle en fait qu'elle avait promis à Gyptis est occupée par un bâtiment qu'il faut désamianter et l'APHM argué d'un lourd endettement qui rendait le calendrier difficile à tenir. De manière un peu plus officieuse, il semblait que c'était surtout l'idée du partenariat public-privé qui soit difficile à accepter culturellement. Pourtant, une fois la parcelle accordée, Gyptis ne coûtera théoriquement rien aux hôpitaux de Marseille. Les soutiens du projet attendent beaucoup donc de la réunion de travail annoncée le 9 février prochain. En premier lieu, évidemment, les associations de malades, comme l'explique Christian Côté. C'est le directeur général de l'AFM Téléthon. Il est lui-même parent d'une enfant touchée par l'une de ces maladies.
L'atout particulier de ce projet d'institut, c'est de créer un lieu intégré où vont être en interaction des disciplines et des acteurs complémentaires. Dans le domaine des maladies rares, la rareté des maladies entraîne aussi la rareté des expertises. Et donc le fait de rassembler dans le même lieu des chercheurs fondamentalistes qui vont travailler sur les mécanismes, sur la compréhension des maladies, des cliniciens, délivrer les soins pour les malades et les orienter, travailler sur le diagnostic, des personnes qui travaillent sur le développement thérapeutique, un lieu où pourront être aussi réalisés des essais cliniques. On appelle ça la recherche translationnelle, c'est-à-dire favoriser l'enchaînement des étapes. C'est un facteur d'accélération du progrès thérapeutique. Le monde des maladies rares en a particulièrement besoin. D'une part parce que il y a un très grand nombre de pathologies. On parle de 7000 maladies rares. Or, sur ce grand nombre de maladies, moins de 5% d'entre elles disposent d'un médicament.
Et en bref, la police néerlandaise va prélever l'ADN de plus de 20 000 hommes dans une large enquête de liens de parenté. C'est la plus grande jamais réalisée dans le pays. Le but est de retrouver le tueur d'un petit garçon de 11 ans assassiné en 98 ou des membres de la famille de ce tueur grâce évidemment à l'ADN. Pour la toute première fois, les chercheurs du centre de recherche en cancérologie de l'Oncopole de Toulouse vont ajouter un anti-inflammatoire dans le traitement contre le mélanome, ce cancer qui touche chaque année 12 000 Français en France et qui connaît un fort taux de récidive. Ces chercheurs ont en effet découvert sa capacité, la capacité de l'anti-inflammatoire à empêcher la progression ou la récidive des cancers de la peau. Et enfin, Antoine Petit, le nouveau président du CNRS, veut que les scientifiques adaptent leur communication à des publics différents, en publiant par exemple des vidéos sur YouTube ou en participant à des actions pédagogiques. C'est ce qu'il a expliqué lors de son audition devant les députés la semaine dernière. Le CNRS devra plus et mieux travailler avec les acteurs de l'industrie et les start-up et développer le plus possible ce qu'on appelle les doubles positions, avec des chercheurs à mi-temps dans des institutions et en entreprise. Il veut aussi et surtout un CNRS fort, je cite, qui soutienne la recherche fondamentale, le socle de tout, mais en étant plus sélectif et plus ambitieux. Deuxième sujet, ce jour, contrairement à ce qu'on pensait, l'apprentissage du langage ne se fait pas grâce à un circuit neuronal spécialisé et spécifique aux humains, comme le pensaient, et sans jamais l'avoir prouvé, beaucoup de chercheurs. Non, l'apprentissage du langage passe essentiellement par deux circuits neuronaux très anciens qui préexistent à l'Homo sapiens, la mémoire dite déclarative et la mémoire procédurale. Cette hypothèse, publiée par le neurologue Michael Ullman, à la tête du département de neurosciences de l'université Georgetown, a été confirmée par 16 études compilées par une équipe internationale et publiées cette semaine dans la revue PNAS. Il m'en a donné les conclusions.
So what we found was exactly what the theory predicts. We're very, very close to it.
Ce que nous avons découvert en compilant ces études correspond exactement à ce que notre théorie prédisait. Les adultes qui se servent surtout de la mémoire dite propositionnelle ou déclarative sont ceux qui retiennent le plus de mots le plus vite. Inversement, le fait d'avoir une bonne mémoire procédurale n'était pas corrélé avec un bon apprentissage des mots. C'est cohérent avec ce que nous prédisions. L'apprentissage des mots utilise le circuit de la mémoire déclarative parce que c'est elle qui est sollicitée quand on doit assimiler des informations arbitraires. Un mot, le contour d'un visage, une liste de courses ou, pour les oiseaux par exemple, l'endroit où ils ont fait leur nid. En revanche, la maîtrise de la grammaire repose sur un tout autre modèle. Chez les enfants, ceux qui utilisent bien leur mémoire procédurale, celle qui est sollicitée dans des activités automatiques comme faire du vélo, étaient tous les meilleurs en grammaire. Et cela se confirme chez les adultes qui apprennent une deuxième langue. Quand ils débutent, leur bon niveau de grammaire est corrélé avec la qualité de leur mémoire déclarative. Mais plus ils maîtrisent la langue, plus ceux qui ont une bonne mémoire procédurale sont bons en grammaire. Ce que cette étude montre, c'est donc que l'apprentissage du langage ne se fait pas par un système d'apprentissage spécialisé uniquement dans le langage, mais grâce à des circuits d'usage général et très anciens du point de vue de l'évolution. Mais attention, ça ne veut pas dire que le langage ne dépend pas aussi de circuits spécialisés. Il est par exemple tout à fait probable qu'au sein même des circuits de la mémoire déclarative, présente chez beaucoup d'animaux, il y ait une sous-spécialisation liée au langage propre aux humains.
En bref, une très bonne nouvelle, dernière découverte en date dans l'écosystème très riche de l'archipel des Galapagos, une pouponnière naturelle de requins-marteaux, vieille sans doute de plusieurs milliers d'années. Les femelles requins-marteaux viennent mettre bas dans cet habitat naturellement protégé par la mangrove et par les récifs, où les petits requins grandissent à l'abri des prédateurs et se nourrissent sans difficulté. Une découverte encourageante dans la mesure où les requins-marteaux sont sur la liste rouge de l'Union internationale de conservation de la nature et que sa population mondiale a diminué de plus de 90%. Enfin, une erreur humaine serait à l'origine du fiasco d'Ariane 5 la semaine dernière. La fusée européenne devait mettre en orbite deux satellites de communication qui ne se sont pas séparés au bon endroit et qui n'ont donc pas été mis en orbite correctement. C'est en tout cas ce qu'indique le journal La Tribune. Le calculateur de bord de la fusée aurait été mal programmé. Au lieu de décoller plein est vers l'équateur, la fusée a décollé 20 degrés plus au sud. L'information a été démentie par Ariane Space qui doit rendre les conclusions de son enquête interne fin février. Et enfin, dans notre rubrique « Sens improbable », une étude très sérieuse et absolument fascinante répond à cette question cruciale que sans doute vous vous êtes beaucoup posée. Pourquoi est-ce que quand vous marchez avec une tasse de café chaude et délicieuse à la main, en allant au bureau ou en revenant de la machine à café, une fois sur deux, je parle d'expérience, vous le renversez, ce qui a le triple des avantages, de vous tâcher, mais aussi de vous brûler, et surtout de devoir aller en chercher un autre. Alors pourquoi? Et pourquoi surtout, même quand vous êtes un peu éméché, vous avez l'impression que ça arrive moins, avec du vin, avec du cognac, avec de la bière. Eh bien, il y a une explication scientifique à cela, nous disent aujourd'hui deux professeurs de mathématiques de l'université d'Oxford. Quand un liquide se met à osciller fortement selon une ou plusieurs fréquences, on parle de résonance. Or, pour le café, cette résonance se produit entre 2 et 3 oscillations par seconde. Ça correspond peu ou prou à l'allure moyenne de marche, qui est de 2 ou 3 pas par seconde. En clair, notre rythme de marche est très très proche de la fréquence de résonance du café, ce qui fait que le risque de débordement est décuplé. Et pour éviter le renversement, et oui c'est tout l'intérêt de cette étude, c'est de vous faire avancer dans la vie, eh bien il faut que vous teniez votre café le plus à la verticale possible, le bras tendu, et non pas à l'horizontale devant vous, comme vous avez souvent tendance à le faire.